Bonjour et bienvenue au Conseil de classe, l'émission qui note tout, mais surtout n'importe quoi. Aujourd'hui, nous allons parler d'une minorité qui divise. Certains pensent qu'elle se développe de plus en plus, qu'il faut régler le problème. D'autres vous diront qu'ils sont opprimés, qu'ils doivent être protégés. Certains vous diront même qu'ils n'ont rien contre eux, qu'ils ont même un ami qui en est un. Pour Damien XVI, on l'est quand on est jeune. Pour Brassens, le temps ne fait rien à l'affaire. Audi a refusé même de leur parler, de peur de les instruire. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler des cons. Alors, pour les noter, je suis désolé, hein, j'ai trouvé aucun représentant de la communauté, mais nous les évaluerons quand même avec Mira sur l'aspect informatique et culture geek, avec Émilie pour la littérature et le français.
Bonjour.
Et nous finirons avec notre philosophe Jean-Julien pour parler philosophie.
Bonjour tout le monde.
Allez, sans plus attendre, que penser des cons dans la culture geek et l'informatique, Mira ?
Déjà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et j'espère aussi que votre matière grise est bien à sa place et que vous avez bien fait préchauffer votre second degré. Car aujourd'hui, on va clairement en avoir besoin puisque nous nous attaquons à du lourd, comme tu l'as dit. Aujourd'hui, les cons passent leur conseil de classe. Alors je vous préviens tout de suite, hein, il est hors de question pour moi de me draper dans une bienveillance aussi fictive que les cheveux de mon cousin à son retour de Turquie. En vous disant que la connerie est une notion subjective, que l'on est tous plus ou moins le con de quelqu'un, etc., etc. Non, non, non. On va y aller cash, hein, et on va appeler un con un con. Par exemple, le mec qui s'ennuie au volant de sa voiture de nuit décide donc d'allumer un bâton de dynamite et de le lancer par la fenêtre pour voir ce que ça fait, mais qui n'a apparemment pas remarqué que la vitre de cette fenêtre était en fait fermée. Se fait exploser face au droit du travail sous Macron, bah clairement pour moi, c'est un con. Et c'est sûrement grâce à mon job de programmeur, où j'ai longtemps été confronté à des utilisateurs parfois particulièrement cons, que j'ai développé un cynisme redoutable face à la connerie. Et oui, l'époque bénie où seule l'élite professionnelle avait accès à l'outil informatique est terminée. Aujourd'hui, n'importe quel con possède un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Et bien souvent, ces mêmes cons les utilisent dans leur vie professionnelle. Je ne compte plus le nombre de fois où je me suis retrouvé dans cette situation ultra gênante pour moi, professionnel de l'informatique, face à une personne vraisemblablement en détresse devant son écran, secrétaire, vendeur, médecin, peu importe, hein, qui me dit « bah je comprends pas, ça bug, oulala, c'est informatique, ça marche vraiment jamais ». Ah bah oui Jacqueline, hein, si la machine te demande ma taille en te précisant qu'elle la souhaite en centimètres et que toi tu saisis dans la case prévue à cet effet 1,87 ou pire 1m87, bah oui, ça fonctionne pas Jacqueline. Hein. Mais c'est pas l'informatique le problème Jacqueline, c'est juste toi qui es trop con Jacqueline. On en arrive à un point où dans les tests des logiciels, maintenant on a une phase juste pour vérifier s'ils sont idiot-proof. C'est un vrai terme technique, hein, vraiment. Idiot-proof, ça veut dire imperméable à la connerie dans la langue de Big Flo et Oli. On va donc vérifier que le software ne plante pas, retombe sur ses pattes en réponse aux diverses idées stupides qui pourraient passer par la tête d'un de ses utilisateurs. Par exemple, le fait de saisir une information numérique en chiffres romains. Voilà, c'est con, mais pourquoi pas, hein, ça c'est déjà vu. Mais enfin, monsieur Darmanin, pourquoi refusez-vous d'utiliser les chiffres arabes ? Plus sérieusement, la création de nos logiciels, applications et sites web est fortement alourdie par l'obligation de mettre en place des garde-fous dans le seul but de prendre en compte ces armées de cons qui vont les utiliser sans même prendre le temps de lire le mode d'emploi, ni les messages et autres aides en cours d'utilisation. Je vous entends déjà me dire « Mais Mira, t'es vachement dur avec nous aujourd'hui. On est tous des utilisateurs et on pourrait se sentir attaqué par de tels propos. » Eh bien oui, très chers auditeurs, c'est vrai. Je vais donc affiner mon propos. Loin de moi, les sous-entendus réacs du « c'était mieux avant », « les gens étaient meilleurs, plus beaux, plus intelligents, plus civilisés », etc. Non, hein, vraiment pas. Il n'y a pas plus de conneries aujourd'hui qu'avant, ni plus de cons. Mais clairement, les cons ont plus facilement accès à l'outil informatique qu'avant, et ça, ça change tout de mon point de vue. Donc, pour en revenir à notre élève, je dirais que c'est épuisant de devoir constamment le protéger de lui-même, que sa tendance à ne jamais assumer ses actes m'agace au plus haut point, et que si ça ne tenait qu'à moi, je le foutrais ça directement au conseil de discipline.
Merci Mira pour la chronique. Un gros bisou à Jocelyne hein, qui appelle le service informatique toutes les deux semaines. J'aimerais rappeler aussi une petite expression d'informaticien qui dit que 90% des bugs se situent entre la chaise et le clavier.
Et le clavier, exactement.
C'est vous qui me l'aviez appris celle-là. Alors, une petite pause musicale pour parler des cons. Et en plus, on va parler des cons de la jeunesse sur une chanson qu'on a découvert pendant notre jeunesse. C'est « Jeune et con » de Damien XVI.
jour se lève sur la planète France et je sors doucement de mes rêves. Je rentre dans la danse comme toujours. Il est 8h du soir, j'ai dormi tout le jour. Je me suis encore couché trop tard. Je me suis rendu sourd encore. Encore une soirée où la jeunesse souffrance encore. Elle va bien s'amuser puisqu'ici rien n'a de sens. Alors on va danser, faire semblant d'être heureux pour aller gentiment se coucher. Mais demain rien n'ira mieux puisqu'on est jeune et con, puisqu'ils sont vieux et fous, puisque des hommes crèvent sous les plombs. Mais ce monde s'en fout puisqu'on est que des pions contents d'être ingénieux, puisque je sais qu'un jour nous gagnerons à devenir feu, devenir feu, devenir feu. Encore un jour se lève sur la planète France, mais j'ai depuis longtemps perdu mes rêves, je connais trop la danse. Comme toujours, il est 8h du soir, j'ai dormi tous les jours, mais je sais qu'on est quelques milliards à chercher l'amour encore. Encore une soirée où la jeunesse France encore, elle va bien s'amuser dans cet état d'urgence. Alors elle va danser, faire semblant d'exister. Qui sait si l'on ferme les yeux, on vivra. Puisqu'on est jeune et con, puisqu'ils sont vieux et fous, puisque des hommes crèvent sous les ponts, mais ce monde s'en fout. Puisqu'on est que des pions contents d'être à genoux, puisque je sais qu'un jour nous nous aimerons comme des fous, comme des fous.
Oh, le coup de vieux, c'était 16, jeune et con. Vous êtes au Conseil de classe, l'émission qui note tout, mais surtout n'importe quoi. Une émission en partenariat avec l'UPOP et Croc Radio. Et aujourd'hui, on note, on évalue les cons. Et comme les cons, aujourd'hui, on n'arrête pas le progrès, savent lire et écrire, nous allons avoir une évaluation du con en français et littérature par Émilie.
Vous savez, en tant que professeur de lettres classiques, j'ai un dada qui me permet de comprendre un peu le monde, l'étymologie. Et concernant les cons, je n'ai pu résister au plaisir de mettre en lumière leur glorieuse ascendance lexicale. Donc, pour bien avant de désigner ces gens stupides, bêtes et méchants qu'on est tous un jour, attendu qu'on est tous le con de quelqu'un, eh bien, le con désigne la vulve, le sexe féminin, et ce, dès la plus haute antiquité. En effet, le mot « con », au départ un substantif, vient du latin classique « cunus » et signifie à la fois sexe féminin, mais aussi « lapin ». Vous avez tous pensé à cuniculture, évidemment. Pour la petite histoire, Charles d'Orléans, prisonnier et otage en Angleterre pendant 25 ans après la bataille d'Azincourt, demande dans un de ses poèmes adressé à je ne sais plus qui, s'il a bien reçu les connins qu'il lui avait envoyés. On peut légitimement se demander si une altesse princière faisait commerce de lapins. Pour ma part, je pense qu'il occupait son exil comme il pouvait. Bref, je vous vois venir. Vous allez me dire, Madame Amance, vous gauchissez le sujet, il n'est pas question du con, mais des cons. Patience, patience, j'y viens. Ce qui m'intrigue tout de même, c'est qu'on soit passé de ce sens anatomique au sens de imbécile, idiot. Vous me connaissez, j'ai fait des recherches pour élucider cette troublante énigme. Mais hélas, rien de très satisfaisant. Ainsi, lis-je, en guise d'explication, que c'est en référence au sexe de la femme pris comme symbole de l'impuissance et de la passivité, par métonymie, que l'adjectif argotique prend le sens qu'on lui connaît au XIXe siècle. Au XIXe siècle, mais oui, là on tient une explication. Le glissement de sens s'explique par la misogynie. Je suis donc tentée de pousser la chansonnette sur les mots de Brassens dans le blason. Honte à celui-là qui, par dépit, par gageure, dota de même terme en son fiel venimeux ce grand ami de l'homme et la cinglante injure. Celui-là, c'est probable, en était un fameux. Bon, malheureusement, on ne peut revenir en arrière et depuis deux siècles, le sens anatomique du mot a largement reculé au profit de l'adjectif argotique. Et si l'injuste homonymie suscite dans toutes mes fibres féminines une légitime indignation, je dois reconnaître que, sans les cons, nous aurions dû nous passer de quelques-unes des répliques les plus drôles de la pop culture. Évidemment que seraient les dialogues d'Audiard, les chansons de Brassens, de Renaud, les épisodes de Kaamelott, les virgules toulousaines, sans les cons. Pour conclure, l'élève con a un sale penchant misogyne, mais il a le génie de susciter une créativité certaine et ne laisse personne indifférent.
Eh bien, merci beaucoup, Émilie. Et tout de suite, on va passer la parole à Béranger pour les félicitations du conseil de classe.
Merci, Mira. Alors, pour ces félicitations, on va parler d'un duo. Un duo génial, Dunning et Kruger. Je vous raconte l'histoire. Dunning et Kruger sont deux potes. Ils tombent sur un article de presse qui parle de l'histoire de Mac Arthur Wheeler. Mac Arthur Wheeler n'était pas la chips la plus croustillante du paquet. Il avait décidé de braquer deux banques et n'avait utilisé ni masque ni cagoule. Est-ce que vous savez pourquoi ? Parce qu'il avait décidé de camoufler son visage avec du jus de citron. Partant du principe très simple que si ça rendait l'encre invisible, pourquoi pas la tête ? Face à ça, Dunning et Kruger se posent la question « À ton avis, est-ce que tu crois que les cons savent qu'ils sont cons ?» Alors, on serait sur des gens normaux, ça finit soirée débat, grosse bière, exemple à base de « Mais tu vois bien, mon tonton Boris est un con, il n'en est pas conscient » et c'est une bonne soirée. Mais Dunning et Kruger font partie d'une espèce un petit peu particulière, ce sont des chercheurs. Et donc des chercheurs en psychosociologie en plus. Donc quand Dunning dit à Kruger « Est-ce que tu penses que les cons savent qu'ils sont cons ?» Kruger dit « Vérifions-le de façon scientifique !» Ils ont donc fait des tests sur des centaines, et ça a été repris par des collègues, des milliers d'étudiants, en leur demandant de s'évaluer et en les testant ensuite, pour voir un éventuel décalage entre l'image qu'ils ont de leurs propres compétences et leurs compétences réelles. Le résultat est sans appel. Les couteaux les moins aiguisés du tiroir se prennent pour des rasoirs. Ce qu'on peut conclure, c'est qu'en fait, les cons sont persuadés d'être intelligents, les cons n'arrivent pas à repérer les gens intelligents, et au contraire, les gens intelligents se sentent un peu cons. Donc, on peut se dire que, en fait, mais c'est logique. Le pingouin qui glisse pas le plus loin ne sait pas jusqu'où va la banquise. Il vous faut un certain niveau de compétence pour voir qu'il vous en manque. Et à l'inverse, plus vous en connaissez, plus vous êtes conscient de ce qui vous manque à savoir. Chaque réponse amène des tonnes de questions, comme le dirait Jean-Julien, notre philosophe. C'est ce que Dunning et Kruger appellent la vallée du désespoir. Et donc, et c'est là que ça pose un vrai problème. Parce que le type pas très malin, vous savez, celui qui a l'air de connaître le goût des crayons de couleur, eh bien, il est persuadé de tout maîtriser. Et quand il est face à un type plus intelligent, qui doute de lui, eh bien, c'est le con qui est le plus convaincant. On peut appeler ça l'effet du convainqueur, ou du plateau de BFM en fonction, ou si vous voulez vous la jouer dans les dîners, vous pouvez appeler ça la loi de Brandolini. La loi de Brandolini dit que la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des idioties est supérieure d'ordre de grandeur à celle nécessaire pour les produire. Ça me rappelle ce triste moment où tonton Daniel, qui n'est pas le lampadaire le plus éclairé du trottoir, vous dit qu'il connaît mieux l'histoire de France que votre collègue prof d'histoire géo parce qu'il a vu un documentaire avec Stéphane Bern sur Napoléon. Voilà, on peut donc avoir trois conclusions à tout ça. Ce qu'il faut retenir, d'abord, si vous avez des fois l'impression de ne pas être la voiture la mieux garée du parking, rassurez-vous, c'est un signe d'intelligence. Deuxièmement, si un type qui n'est pas le lampadaire le plus éclairé de la rue vous dit des âneries, n'essayez pas de le convaincre, ça ne marchera pas. Et pour finir, si vous pensez que tout le monde est con autour de vous, Eh bien, sûrement, c'est vous le crayon qui n'est pas le mieux taillé de la trousse. Donc, j'aimerais donner ces félicitations à Dunning et Kruger, tout simplement pour avoir démontré que la connerie est la seule maladie qui ne fait pas souffrir la personne qui en souffre parce qu'il ne peut pas en être conscient. En tout cas, je réitère ces grandes félicitations pour nos deux chercheurs. Pour une fois, on ne parle pas d'élèves, mais de profs. Et on va enchaîner en musique avec Mademoiselle K.
Oh, alors toi, t'as un gros cœur, mais t'es un branque, ça va pas le faire. Tu vas te faire marcher sur les pieds, tu vas chialer, ça t'apprendra la prochaine fois.
Conseil des classes, l'émission sur Croc Radio en partenariat avec l'UPOP. Et tout de suite, place à Béranger pour son avertissement du conseil de classe.
Oui, un avertissement. Alors, on a fait des félicitations pour un duo de chercheurs, et donc Dunning et Kruger. On va donner un avertissement à un autre chercheur, Peters, connu pour son grand principe de Peters. Alors, vous le connaissez peut-être pas, hein, mais c'est celui qui répond à la question fatidique de pourquoi Jocelyne de la Comta est si incompétente, pourquoi mon patron ne sait rien faire. Eh bien, Peters propose une solution. Il propose une solution avec un syllogisme. Jean-Julien, un syllogisme, qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, un syllogisme, c'est une forme de déduction très ancienne dont les principes ont été posés par Aristote et qui nous permet normalement d'aboutir à une vérité certaine.
Eh bien, prenons le syllogisme de Peter. Il part de deux hypothèses. Première hypothèse, quand vous êtes compétent dans votre métier, vous progressez. Deuxième hypothèse, quand vous n'êtes plus compétent, vous ne progressez pas et on ne vous rétrograde pas non plus. Donc la conclusion du syllogisme de Peter, c'est que vous finissez toujours à ce qu'on appelle un seuil d'incompétence, ce moment où vous avez monté le cran de trop et vous êtes un incapable, ce qui explique pourquoi votre patron ne sait pas faire fonctionner l'imprimante. Est-ce que vous voyez la lacune, Jean-Julien ?
De quoi ? J'ai pas compris, pardon. J'étais en train de rêver.
Ah, bon, on a un syllogisme qui tient la route, sauf qu'un syllogisme se base sur des hypothèses. Et quand les hypothèses marchent pas...
Eh ben, la conclusion, elle est foutue en l'air.
Et la conclusion est foutue en l'air, puisque, oui, effectivement, je pourrais se dire, les gens progressent quand ils bossent bien. Quand ils bossent mal, ils arrêtent de progresser. Ils sont tous à un niveau d'incompétence, sauf que, on sait tous que c'est pas le fait d'être bon dans son boulot qui permet de progresser. Et que dans une période de crise comme maintenant, vous pouvez être très très bon et ne pas progresser non plus. Donc... Et c'est là que ça devient très drôle. Notre ami Peters est quelqu'un de très intelligent qui a sorti un raisonnement et un syllogisme tout à fait valable, mais comme il est basé sur des hypothèses pas de sa matière et foireuses, il nous a sorti un type intelligent qui dit quelque chose de complètement con sur les cons. Allez, on va enchaîner tout de suite avec la philosophie. Jean-Julien va nous faire un raisonnement peut-être un peu plus construit que le mien sur et répondre à toutes nos questions sur doit-on s'en débarrasser ? Comment repérer les cons ? Jean-Julien, aidez-nous s'il vous plaît.
Oui, c'est pas facile hein, parce que effectivement les cons ça hausse tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Bon, on a une piste pour reconnaître les cons, mais on peut aller plus loin, pousser la question et se demander comment est-ce qu'on peut les identifier ? Comment savoir si l'on a raison de nommer telle ou telle personne un gros con ?
Alors, comment savoir comment détecter les cons ?
Bon, écoutez, le mieux, pour être concret, c'est de commencer par un exemple. Hein. Donc, c'est une histoire qui commence par ce monsieur qui, dans la rue, marche en se faisant plaisir avec une petite viennoiserie qu'il est en train de goulûment avaler. Et puis, quand il a terminé, il prend son vieux papier de boulangerie, il le froisse et il le jette par terre. Au lieu de le déposer dans la poubelle qui se trouvait là tout exprès, la gueule grande ouverte pour accueillir le déchet. Donc là, écoutez, est-ce qu'on n'a pas un gros con quand même ? Hein ? On le reconnaît bien parce que son comportement, on le juge. On se dit que c'est pas concevable d'en arriver à jeter ses papiers par terre comme ça, que même les gosses ne font plus ça. Et là, les cons se font voir. On les distingue par leurs actions, la manière dont ils interviennent dans notre monde pour le polluer comme des dégueulasses. Les cons, ce seraient donc ces gens qui nous entourent et qui pensent et qui se comportent d'une manière qui nous insupporte. Ils sont là et puis ils nous gênent. Ils nous gênent parce qu'au fond, ils ne sont pas comme nous. Les cons ont donc un rapport avec ce que nous ne supportons pas dans l'altérité. Les cons, c'est les autres, les conducteurs qui conduisent moins bien, les électeurs qui votent moins bien, les parents qui élèvent moins bien leurs enfants, et finalement les gens qui entravent, par le simple fait qu'ils existent, le bon déroulement de notre vie à nous.
Mais alors, faut tuer les cons ou on peut leur trouver une utilité quand même ?
Non, il y a une utilité du con, c'est qu'ils sont là pour nous rassurer, pour nous permettre de poursuivre notre existence en étant certain que le chemin que nous arpentons est celui de l'intelligence, de la raison et du bon sens. Ils sont notre miroir inversé. En les reconnaissant, nous savons quel genre d'être humain nous sommes et nous nous efforçons de nous écarter nous-mêmes de la connerie. Finalement, nous persévérons dans notre modèle d'humanité raisonnable. Donc oui, on est tous le con de quelqu'un, il y a une formidable relativité du concept de connerie. On est con sous le regard de celui qui pense qu'il n'est pas con, alors que celui-là même est le con de celui qui se croit plus malin. C'est bon, vous suivez ?
Ouais.
Donc, c'est trop facile ça, le relativisme en philosophie, on essaye vite d'y renoncer. Sinon, on prend des airs de Pascal Pro et on a l'air un peu con.
ok, donc, mais elle est où la connerie universelle ? Celle qui part relative, celle qui met tout le monde d'accord ?
Il y a peut-être une piste, non pas directement chez un philosophe, mais chez Flaubert. Les cons, finalement, ce seraient ceux qui sont dans les préjugés, et la connerie serait une bêtise. Regardons quelques instants les premières lignes de Bouvard et Pécuchet. Bouvard et Pécuchet se rencontrent par une chaleur insupportable. Flaubert soulignera d'ailleurs que la chaleur l'est toujours pour le con. Et ils sont là, assis sur un banc, ils s'émerveillent l'un de l'autre et s'entretiennent dans la connerie. D'abord, on voit chez Flaubert que les cons réagissent. À croire que Bouvard et Pécuchet auraient été comme des poissons dans l'eau sur Twitter. Il y a autour d'eux des choses qui se passent et ces choses appellent un commentaire immédiat. Un commentaire bien con sur les femmes, par exemple. Donc on va les qualifier rapidement d'acariâtres, de frivoles, de têtues, sans grande vergogne. On va construire une généralité creuse qui ne brille pas par sa densité intellectuelle, mais qui permet de faire consensus et de se sentir rassuré par tout ce que le monde nous envoie et qui est dur à supporter. Les femmes... mais aussi tous ces gens différents, les homosexuels, les juifs, les immigrés, bref, ces gens-là, quoi. On le voit avec Flaubert, les cons raisonnent en groupe, mais raisonner reste un bien grand mot. Pour être vraiment con, il faut dire une chose et son contraire. Les femmes, des fois elles sont meilleures, des fois elles sont pires que les hommes. On sait pas très bien, on a l'impression d'avoir réfléchi parce qu'on a couvert toutes les possibilités, mais en fait on n'a rien dit.
Alors une conclusion, cher collègue ?
Bah j'en déduis du coup avec Gustave que pour arrêter d'être con, on peut sans doute commencer par fermer sa gueule.
Ce qui est une très bonne chose à dire à la radio, hein, parce qu'on passe notre temps à fermer notre gueule, nous. Bon, en tout cas, merci pour cette appréciation en philosophie. Avant de clôturer l'émission, petit moment recommandation. Est-ce que vous avez tous et toutes juste une petite œuvre à nous recommander sur les cons ?
Eh bien, oui, allez, je commence. Il y a un très bon documentaire sur Netflix que je viens de commencer sur Raël et sa secte, ou sa religion, au choix. Hein. C'est passionnant en termes de conneries. Voilà.
Ok. Émilie ?
Alors, ce qui me vient à l'idée en premier, c'est un film qui s'appelait Idiocratie.
Vous m'avez volé ma ref.
Ah, désolé.
Mais oui, super, Idiocratie qui nous dit dans l'introduction que les cons se reproduisent plus vite que les gens intelligents.
Voilà.
Ce qui amènerait, en toute logique, par darwinisme, à finir dans un monde peuplé de cons.
Absolument.
Et vous, Jean-Julien ?
Bah écoutez, moi je pense tout simplement au film que j'ai regardé hier soir qui s'appelle Le Monde Après Nous, un film catastrophe un peu étrange avec Julia Roberts. Et bah ça nous montre qu'on est un peu tous des cons en train d'attendre que la catastrophe nous fonce sur la gueule en restant tranquillement assis sur la plage en tentant de lire notre petit livre et en se chatouillant les doigts de pied avec les grains de sable.
Oh, que c'est beau. Et ben je vous remercie en tout cas pour cette émission. C'était Le Conseil de Classe, l'émission qui note tout et surtout n'importe quoi, en partenariat avec Croc Radio et Lupop. Et on se retrouve pour la prochaine émission. Alors n'oubliez pas, tous les jeudis midi et les dimanches matins. Et la prochaine fois, on parlera ensemble des copains.